Rencontre,
une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.
Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 17 octobre 2018. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet difficile puisqu'il sera question de l'islam et des juifs. Un sujet difficile parce que complexe, mais surtout parce que polémique. On s'en souvient, au début de l'année, une pétition signée par 250 personnalités dénonçait un antisémitisme nouveau développé parmi les musulmans. Il identifiait une cause religieuse et il réclamait, j'en cite un extrait, que les versets du Coran appelant au meurtre et au châtiment des juifs, des chrétiens et des incroyants soient frappés d'obsolescence par les autorités théologiques. Alors, nous allons essayer de prendre du recul à partir d'un livre imposant dont je reçois l'auteur. Bonjour Tania Heitzig.
Bonjour.
Tania Heitzig, vous êtes chrétienne, croyante et engagée depuis plusieurs décennies dans le dialogue interculturel et interreligieux. Vous avez travaillé pendant plus de 20 ans avec André Chouraki, à Jérusalem et à Paris, autour de l'exégèse de textes fondateurs des trois monothéismes. Et de cette expérience unique, vous avez tiré un livre imposant de plus de 550 pages dont on parlera aujourd'hui. Alors, ce livre s'appelle « Au nom du Père et des Fils ». Il est édité aux éditions Éric Bonnier. On va parler essentiellement de deux chapitres. Le chapitre 2, intitulé « Les fils de Babel », et le chapitre 6, consacré aux Juifs dans le Coran. Je précise aussi que ce livre a reçu le prix André Chouraki de la Fédération des Juifs Noirs et que vous avez eu des commentaires très élogieux de personnalités comme Boualem Sansal, Pierre Nora et j'en oublie. Tania Heitzig, pouvez-vous d'abord rappeler en quelques minutes qui était André Chouraki et quelle fut son œuvre ?
Bien certainement un géant de la pensée, reconnu comme tel, dont André Malraux a dit que son œuvre était une grandiose aventure de l'esprit. Alors, lorsqu'on parle d'André Chouraki et de son œuvre, c'est aussitôt à sa traduction de la Bible qui surgit à l'esprit. Mais Chouraki est aussi écrivain, historien, homme d'action, poète. Historien, il affectionne les vastes thèses et pose sur l'avenir le regard d'un nouveau prophétisme. Homme d'action, il n'a cessé d'œuvrer en la faveur de la paix et travailler au rapprochement des juifs et des chrétiens, des juifs et de l'islam.
Alors justement, quelle était sa vision de la filiation du christianisme, d'une part, et de l'islam par rapport au judaïsme ?
Bien, c'est une filiation scripturaire. Il estimait que la Bible avait donné naissance au christianisme et à l'islam, donc à l'évangile et au Coran. Pour lui, l'unité de ces trois révélations était évidente. Il a dit que la prédication de Mohammed s'enracine dans la Bible et que c'est vrai tant pour les anecdotes que pour l'essentiel.
Et donc, c'est une filiation qui va au-delà d'un rapprochement, disons, civilisationnel, parce que ce sont des religions qui sont nées dans la même région. C'est plus profond que ça.
Oui, parce que le Coran lui-même proclame à longueur de sourates qu'il est un écrit confirmatif, qu'il n'est qu'un rappel des révélations précédentes et des écrits antérieurs. Donc, c'est le Coran lui-même qui le proclame.
Il se fonde
là-dessus.
Voilà. Alors, il faut dire que dans ce livre, hein, vous exprimez un respect profond pour le judaïsme, qui est à la fois la première croyance en un Dieu unique, qui est un message singulier, qui est destiné à un peuple soumis à des commandements hein, particuliers, et puis qui définit aussi la mission de ce peuple par rapport à l'humanité. Or, le judaïsme ne s'oppose théologiquement qu'à l'idolâtrie, mais dans le fond, il ignore les autres monothéismes arrivés après lui. Ça pourrait être le sujet d'une autre émission, c'est pas quelque chose de ça. Mais pour revenir à votre titre, au nom du Père et des Fils, la filiation apparaît évidente pour le christianisme, parce que, quelque part, la Torah est reconnue, à part qu'elle est appelée Ancien Testament. Mais l'islam se fonde sur un texte complètement nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, pour votre propos précédent disant que le judaïsme ignore les autres monothéismes, je dirais plutôt qu'il les a subis historiquement. Il en a subi les contraintes, pour ne pas dire les persécutions, pendant 2000 ans pour le christianisme vis-à-vis du judaïsme, et puis sous la condition de dhimmi quand même.
En terre d'islam, oui.
Voilà. Maintenant, que ce soit un texte complètement nouveau, le Coran, le prophète lui-même, Mohammed, dit « Je ne suis pas un innovateur parmi les prophètes ». Il n'a cessé de le revendiquer. « Je ne suis qu'un avertisseur en langue arabe claire pour un peuple qui comprend ». Le Coran dit que d'ailleurs, avant lui, aucun alerteur n'était venu à ce peuple en arabe.
C'est vrai.
Et c'est ça la nouveauté. C'est que, bien sûr, qu'il a connu une imprégnation orale, l'oralité en Arabie, vous savez. C'était comme de nos jours, c'était l'or des Arabes. Comme de nos jours, le pétrole, c'est l'or des Arabes. Mais c'était l'oralité. Donc, les joutes oratoires allaient bon train dans tous les marchés, les voyages en caravane, etc. Et il en était le témoin permanent. Donc... C'est donc un écrit qui est confirmatif des écrits antérieurs, et ça, le Coran le rappelle à
de nombreux endroits. Alors, j'aimerais qu'on passe à peu près 5-6 minutes sur justement ce fameux chapitre 2, les fils de Babel. Parce que tout le monde croit connaître l'épisode biblique de la tour de Babel. J'avais, avant de vous lire, une idée simpliste, qui était celle d'une malédiction divine contre les humains orgueilleux, qui avait tenté de bâtir une tour montant jusqu'au ciel. Dieu détruisit la tour et la malédiction fut de leur faire parler des dizaines de langues alors qu'ils en parlaient une seule en construisant la tour. Alors, vous donnez une interprétation totalement différente. Pourriez-vous la résumer, mais surtout expliquer à nos auditeurs le rapport avec la suite du livre.
Oui, écoutez... Ce récit s'insère exactement entre la description des descendants de Noé et du déploiement des peuples dans leur langue, leur culture, les races, etc. Et puis le chapitre suivant qui est la généalogie d'Israël, les généalogies d'Israël. Donc, parler une langue unique, comme le dit le texte, voilà, ils disent « faisons-nous un nom et bâtissons-nous une ville et une tour, la tête au ciel ». Alors, le propos du rédacteur se situe sur un tout autre registre que celui du fantasme d'une unité mythique linguistique originelle. Il s'agit là plutôt d'une pensée unique, et c'est ça qui est dénoncé par Adonai Elohim dans le texte biblique. Parce que ce texte dit « Voici un seul peuple, une seule lèvre pour tous. Cela, il commence à le faire. » C'est ça qui est dénoncé, c'est l'action. Oui. Oui. C'est l'esprit dans lequel l'action est faite, dans un esprit d'autopuissance,
d'autonomisation. Et on voit Dieu qui intervient justement au fil de ce passage de la Genèse.
C'est ça. Et donc, il intervient. En fait, c'est le processus de construction qui est lui-même mortifère. Si bien que la langue unique, elle finit par se désagréger dans la mésentente, les discordes, devenir un méli-mélo, ce que dit exactement le terme Babel étymologiquement.
Qui est, pouvez-vous le rappeler, étymologiquement
Babel. Oui.
Ça vient de Babylone, non? C'est un rapport?
Ça vient de Balal, mêlé.
Mêlé, ah d'accord.
Oui, oui.
Et est-ce que, donc la relation que vous faites avec les religions qui sont apparues après, c'est quoi? C'est une volonté d'effacement, c'est-à-dire comme la construction de cette tour à partir de Ex Nihilo, finalement, on ignore le judaïsme qui était à la base de tout.
C'est sûr que s'autonomer dans un acte autofondateur d'affirmation de soi comme origine de sa propre réalité, c'est se vouloir autogène comme Dieu, quelque part. Donc, c'est la faille. On dit qu'ils bâtissent sur une faille. La faille, elle est interne à la construction, en fait. Et... Bon, le rédacteur biblique, il est très sobre, il est lapidaire, il ne dit pas quelles sont les raisons de cet échec. Mais les bâtisseurs, eux, disent une seule parole, faisons-nous un nom. Donc, vouloir s'originer en soi, être autogène, c'est un déni d'antériorité. Donc, ensuite, le déploiement des religions auxquelles vous faites allusion,
oui,
ensuite,
le christianisme et l'islam,
se fait un petit peu sur le mode, on va dire, du déni d'antériorité par rapport au judaïsme, s'agissant de l'islam, du christianisme, pardon, et puis s'agissant de l'islam par rapport aux deux antérieurs.
Alors,
bien que le Coran proclame, lui, est un écrit voilà, confirmatif des précédents.
Voilà, donc c'est un petit peu cette contradiction dans laquelle j'imagine le regretté André Chouraqui a quelque part navigué, et puis vous aussi, et puis tous ceux qui font l'exégèse, mais c'est aussi, il faut bien insister auprès de nos auditeurs, ça a été le cas du christianisme, hein, qui s'est présenté comme le vrai Israël, Verus Israël.
Ce qui s'appelle s'autonomer.
Voilà. Je suis le vrai Israël, c'est fini, l'ancien n'existe plus, quoi, en quelque
sorte.
Voilà,
c'est ça. C'est la pratique des bâtisseurs de Babel, quelque part. S'autonomer.
Et donc, ça a été effectivement, malheureusement, ce qu'ont subi les Juifs pendant 2 millénaires, avec une évolution qu'on a connue, hein, oui, récente, hein, depuis Vatican II.
Donc, ma réflexion sur ce déploiement des deux religions qui ont suivi, c'est que du fond des âges babyloniens scrutés par le yaviste, montre cette question 4000 ans après Babel. Hormis les heures de gloire, de puissance et de lumière qui ont illuminé de leur feu les aires chrétiennes et musulmanes, riches l'une et l'autre, bien sûr, de civilisation, etc. Mais quels fruits de paix ont-ils produit aux yeux de l'autre moitié de l'humanité? Sinon la construction d'édifices théologiques, comme Babel, idéologiques et dogmatiques qui ont nourri à longueur de siècles division, schisme, conflit autour de la suprématie.
Merci Tania Hitzig. On est obligé maintenant de marquer une pause publicitaire. Donc, amis auditeurs, je vous retrouve dans 2 minutes. À tout de suite.